Donc nous voici dans notre méditation sur le Notre Père. Au cinquième point, vous avez le plan sous les yeux. C'est l'image numéro 47. Et je vais maintenant expliquer, et ce n'est pas une petite affaire, vous allez le voir, cette histoire centrale dans le Notre Père, vous vous souvenez de la structure, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Comme le fait justement remarquer Massimo Montanari, l'auteur de ce livre que je vous montre ici, « La chair et l'esprit », comme il le fait remarquer, le pain n'est pas seulement une nourriture, un aliment. En fait, en vérité, c'est une culture. Le pain est une culture. Et c'est ça que nous demandons dans la prière, comme c'est étonnant. C'est une culture méditerranéenne, bien entendu. Je ne suis pas sûr qu'en Chine, à l'époque, ni en Amérique du Sud, toujours à l'époque, le pain ait cette valeur qu'elle a chez nous, dans le bassin méditerranéen. Mais, plus universel encore, si on comprend ce qu'applique ce type de nourriture qu'est le pain. Et donc, vous voyez, c'est la culture qui est plus universelle que le pain, et c'est ce que nous demandons, en effet, dans la prière, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le pain, vous voyez, comme culture, encore une fois, c'est une organisation sociale, c'est une hiérarchisation des tâches, c'est un usage méthodique et savant, en fin de compte, de la nature. C'est la pratique et la maîtrise de ce miracle étonnant qu'est la fermentation. De même d'ailleurs pour la bière et le vin. La fermentation, c'est une véritable transsubstantiation, avant la lettre, si j'ose dire. Le pain porte en lui-même la vertu du partage, comme vous le voyez, avec cette miche de pain qu'on vient rompre, etc. Vous voyez, tout ça, c'est ça que j'attends par l'épaisseur culturelle de ce Urwort qu'est le pain. Je vous ai déjà parlé des Urwörter, les mots racines, les mots radicaux. Dans cette première demande, on appelle donc toute cette épaisseur sémantique. Le pain quotidien, c'est notre humaine condition. Et ce n'est pas uniquement manger, mais c'est la paix et non la guerre. C'est la justice, que chacun puisse manger. C'est le travail, c'est fou le travail que ça demande, ce simple aliment. C'est l'organisation sociale qu'il y a derrière, c'est le commerce et la paix souvent qui va avec. Ce sont les différents métiers, c'est la table fraternelle, etc. C'est tout ça, le pain. Donne-nous tout ça. Trois choses, je dis, voici la seconde. Donc la première, c'est l'aspect culturel. La seconde, donne-nous. Il ne s'agit pas de quémander auprès de Dieu, de vivre des aides sociales, car il faut travailler, il faut bosser. C'est bien plus humanisant de travailler que d'attendre que tout tombe du ciel. Non, non, quand nous faisons cette prière de demande, c'est pas quémander. Donne-nous exprime que tout cela, tout ce travail, toute cette culture, toute cette nature transformée est un don. C'est une chance incroyable. C'est une bénédiction. Dieu merci, nous sommes en paix. Dieu merci, nous avons du pain, etc. Recevoir notre humaine condition avec gratitude, ça m'est donné. Ce n'est pas une conquête ni un dû. Ce n'est pas une réclamation de ma part. Il nous faut, en effet, attendre de Dieu tout, et non tout attendre de Dieu. Je répète cette formule, elle est absolument essentielle pour la vie spirituelle. Il nous faut attendre de Dieu tout, et non tout attendre de Dieu. C'est-à-dire, tout nous est donné, mais il faut s'y mettre. Il faut nous mettre au travail. Il nous faut mettre notre tout, notre vérité, en Dieu. Vous voyez, je joue sur les mots, mais voilà la prière. Ce que je suis appelé à être, c'est lui qui le donne et qui le donnera. Mais les choses de ce monde, il nous faut y œuvrer. Il nous faut y travailler. Je vous cite cette petite devise de Saint Ignace. Crois en Dieu, comme si le cours des choses dépendait de toi et rien de Dieu. Cependant, mets tout en œuvre comme si rien ne devait être de ton fait. Voilà, c'est-à-dire nous sommes les collaborateurs de l'œuvre de Dieu. Tout nous est confié, en fait. Mais confié, en effet, pour faire porter du fruit. L'abandon à la providence divine, ce n'est pas tout attendre de Dieu. Vous voyez, c'est la phrase que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il nous faut attendre de Dieu tout, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire qu'il donne, c'est-à-dire ce monde comme donné. Et non tout attendre de Dieu, c'est-à-dire attendre que ça vienne. Il faut s'y mettre, quoi. Voilà, c'est-à-dire la prière est toute attente de Dieu. Voilà, c'est ça le fond de la prière. Trois choses, voici la troisième. On a souvent spiritualisé cette demande, hein, donne-nous notre pain quotidien, ça ne veut pas dire donne-nous notre soupe de chaque jour. Hein. Pourquoi pas ? En effet, on a raison, ça n'est pas ça. Mais on l'a parfois trop spiritualisé, surtout récemment, hein, au XXe siècle, en disant « Ah, le pain quotidien, c'est l'Eucharistie ». Mais pas du tout, hein, et certainement pas, ça n'est certainement pas l'Eucharistie. Pourquoi ? Eh bien parce que celle-ci n'a pas été quotidienne, même pas hebdomadaire, et même pas annuelle, dans la vie des chrétiens, pendant des siècles. Donc ça n'appartient pas à la tradition chrétienne, la prière, la communion eucharistique quotidienne, hein, sauf pour une minorité de gens, les moines de Saint-Benoît, les moines bénédictins. Sinon, pour les autres, hein, la communion était fort rare, pendant des siècles. C'est-à-dire du 8e siècle au 20e siècle, eh ben, on ne communiait pas. Ou si peu. Il a fallu, voyez, que le concile de Latran, en 1215, oblige les chrétiens à communier au moins une fois par an. Ça veut donc dire qu'ils ne communiaient pas une fois par an. Vous voyez, au 13e siècle, hein, c'est étonnant, hein. Et en fait, ça a commencé à décroître avec le 8e siècle. Et puis ensuite, vous avez en 1901, donc vous voyez, à la porte du 20e siècle, le pape Pie X, qui lui encourage à une communion plus fréquente. Voilà, on n'est pas encore à la communion tous les dimanches. Hein. Et évidemment pas tous les jours. Donc, donne-nous notre pain quotidien ne peut pas être ça. C'est une erreur, tout simplement, une pieuse erreur, mais c'est une erreur que de le dire. Il s'agit de ce que Dieu donne comme nourriture et ce qu'il a dit qu'il donnerait comme nourriture, c'est-à-dire comme substance pour la foi. C'est-à-dire, c'est quoi notre nourriture, la substance de la foi ? D'abord, nos frères, la charité et la parole de Dieu. Le Christ, déjà, répète, il le répète parce que c'est dans l'Ancien Testament déjà, mais il le répète avec force. On l'a vu lors de notre étude des tentations, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il ne vit pas, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, la parole de Dieu est nourriture, l'homme en vit. Jadis, vous savez, peu de personnes lisaient, mais on était dans une tradition orale de répétition, hein, et donc les convers, par exemple, apprenaient par cœur, je vous l'ai déjà dit, apprenaient par cœur tel ou tel verset, se le répétaient, et finissaient par très bien connaître les psaumes, par exemple, et les enseignements, enfin les répétitions, garantissaient le fait que la parole restait présente. Hélas, là aussi, pendant les temps où on ne communiait pas au corps du Christ, ben on communiait assez peu à la parole de Dieu. Et donc on a occupé les gens pendant des siècles à des prières répétitives, mais on en parlera une autre fois. De nos jours, à la différence de ces siècles, de nos jours, nous avons tous les moyens de faire de la parole de Dieu notre pain quotidien. Tout ça, c'est, vous avez je ne sais pas combien d'applications, 5 ou 6, j'en connais au moins 5 ou 6 d'applications où vous avez tous les jours, vous pouvez recevoir une parole de Dieu, sans compter bien sûr les sites où les textes du jour sont à votre disposition, etc. etc. Voilà, passons au chapitre 6 de notre étude du Notre Père. Les trois dernières demandes. Donc, vous avez vu que le pain quotidien, parole de Dieu, est au cœur de toute chose. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est véritablement le centre, le noyau de la prière. Hein. Sans quoi, ni les trois prières de demande ne peuvent s'accomplir, parce que nous serions sourds à la parole de Dieu. Et ni les trois suivantes, qui sont de l'ordre de la militance, ne peuvent se déployer parce que nous ne serions pas nourris, tout simplement. Hein. En effet, les trois qui viennent, c'est le combat chrétien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et ne délivre-nous du mal. Vous observez d'ailleurs sur cette structure, que, il y a véritablement un emboîtement, vous voyez, de cette parole centrale, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, puisque la seule demande un petit peu développée par une proposition du genre comme encadre tout juste, au plus près, cette partie centrale. Donc vous avez la partie centrale encadrée de phrases développées, que ta volonté soit faite comme sur terre, comme au ciel, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Et puis ensuite, plus vous vous écartez du centre, plus ça devient sobre. Délivre-nous du mal, que ton nom soit sanctifié. Voilà, donc il y a une très belle structure. Alors, allons voir les choses une à une, à nouveau. Commençons par pardon, pardonner. Ou plus précisément, hein, dans Matthieu chapitre 6, verset 12, remets-nous nos dettes. C'est ça, la traduction de Matthieu, c'est remets-nous nos dettes. Comme nous avons remis à nos débiteurs. Ah, c'est un peu différent comme traduction. Ce qui confirme ce que je vous disais il y a un moment, nous sommes en dette. Tant de choses nous ont été données, confiées. Vous voyez, comme quelque chose, en effet, un capital qui nous aurait été confié. Hein. Mais c'est un don qu'on ne saurait pas rendre. Voilà, parce que tout ce qui nous a été donné, mais c'est disproportionné, c'est énorme tout ce qui nous a été donné. Et donc c'est une dette, si vous voulez, que nous ne pouvons pas rendre. Le mot dette exprime bien combien nous devons, plus que don. Vous voyez, c'est voilà, c'est nous devons. Mais nous devons quoi? On va pas pouvoir rembourser. Eh bien, nous devons répondre. Nous devons accueillir ce don. Nous devons cultiver ce don. Le rendre, non, c'est pas possible. Et donc cette quatrième demande consiste, c'est paradoxal, à exprimer une immense gratitude. Voilà, c'est d'abord ça, hein. Remets-nous nos dettes. Gratitude qui ne peut naître en nos cœurs que si nous-mêmes, que si nous sommes nous-mêmes dans cette mentalité. Vous voyez, que si nous-mêmes nous donnons sans esprit de retour. Et en effet, on remarque bien que ceux qui ont cette disposition à la gratitude sont aussi ceux qui sont disposés à la générosité. Premier sens, hein, ça c'est le premier sens, pour moi, essentiel, mais que n'a pas retenu la version liturgique. À cause de Luc, à cause de Luc qui dit remets-nous nos péchés. Comme nous remettons à nos débiteurs. Péché est alors à comprendre, enrichi, éclairé par le mot dette. Voilà, donc c'est la proposition que je, c'est la solution que je propose. Nous devons, ouais, dette. Nous devons, nous aurions dû. Je n'aurais pas dû. Vous voyez la progression entre dette et devoir. Entre dette et faute, le sens a légèrement bougé. Alors, je ne suis pas sûr personnellement que quand le Christ parle de péché, ou quand Pierre dit Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur, il entende le mot péché comme nous l'entendons aujourd'hui. Voilà, c'est bon, mais ça, c'est un des problèmes de cette traduction de Luc, remets-nous nos péchés. Ne voulait pas dire ce qu'on entend aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est une faute en quelque sorte. Ici donc, il s'agit quand même de remettre les offenses, de remettre les offenses qui nous ont faites, c'est-à-dire de pardonner. Vous voyez, remettre les offenses et non pas remettre les péchés. Donc, on remet les offenses qui nous sont faites et les offenses que nous faisons, afin d'être pardonnés. Donc, pardonne-nous nos offenses, disons-nous, mais avons-nous jamais offensé Dieu ? Oui, c'est voilà une très bonne question. Donc, remets-nous nos dettes, vient là du coup à notre secours. Parce que oui, nous sommes en dette. Par contre, avons-nous jamais offensé Dieu ? Bon, oui, quand même. Mais Dieu n'est pas à notre image. Hein. Il n'est pas un petit marquis prétentieux qui s'offusque si volontiers quand on ne lui rend pas hommage. Et à proprement parler, ce n'est pas tant Dieu que nous offensons, mais nous faisons offense au projet qu'il nous a confié. Nous faisons offense à la dignité qui est la nôtre. Nous faisons offense au projet qu'il a pour nous, nous donner part à son héritage et à son royaume. C'est la raison pour laquelle je vous montre une interprétation contemporaine du fils prodigue. C'est ça, nous offensons l'héritage. Nous nous offensons nous-mêmes comme héritiers. Mais nous prenons pour nous, c'est voilà comment nous gâchons l'héritage, vous voyez, nous prenons pour nous, nous dépensons à tort et à travers, nous gâchons nos qualités, nous usons nos vies dans le consumérisme, nous dilapidons nos biens, que sont le désir de l'infini, la capacité à la générosité, etc. Donc voilà, pardonne-nous dans ce sens-là, vous voyez, c'est... Alors, s'ajoute une difficulté. On a l'impression que le pardon est conditionné par notre propre attitude. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Sinon, on donnera coup pour coup. Voilà, on n'a pas pardonné, allez, prends-en une. Ça t'apprendra à vivre. Oui, c'est malin de penser comme ça. Et, vous voyez comme c'est pervers. Il ne s'agit pas d'un traitement à l'image de notre comportement. Pourtant, Matthieu semble bien le dire. Si, il le dit ailleurs, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste non plus ne pardonnera pas vos fautes. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Or, c'est peut-être la plus grande difficulté de notre existence, pardonner. Il ne faut pas trop baisser la barre, mais sans frayeur, regardons bien. Le pire de tous les maux de notre existence, c'est ce que produit l'absence de pardon. Elle produit le ressentiment, la haine, l'aigreur, la guerre, la vengeance, la joie secrète de voir humilier notre offenseur, etc. Ça vous pourrit la vie. Et celui qui n'est pas capable de pardonner, en fait, se pourrit l'existence lui-même. Et donc, l'attitude qui consiste à ne pas entretenir toute cette amertume est déjà une victoire pour la vie. Pour notre vie. Sans pardon, votre vie est ravagée, tourmentée, polluée. Ce que Dieu vous a donné, ce dont Dieu nous a comblé, nous l'avons pollué. Mais ce n'est pas de notre faute, allons-nous dire. On nous a blessés, on nous a fait du mal. Ce sont souvent les autres, en effet, qui ont tout cassé. Peut-être. Mais avouez que c'est bien pire si vous entretenez la haine et le ressentiment. Eux, qui vous ont fait du mal, iront leur chemin, quand vous, vous en serez encore à gratter vos plaies. Voilà. Quoi qu'il en soit, le pardon vaut mieux. Voilà, c'est ça, vous voyez, la richesse de cette prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, comme nous essayons de pardonner, comme nous devrions pardonner. Voilà. Le pardon vaut mieux que tout. Il vaut mieux que l'oubli, il vaut mieux que le ressentiment. Donc, reprenons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous propose deux versions plus light et deux images. En Matthieu 7, verset 2, on a cette expression « De la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera aussi ». Ça, c'est plus light que l'histoire de Matthieu en disant si tu ne pardonnes pas, ton père te pardonnera pas. Donc la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera aussi. Il est question donc de la manière dont nous jugeons par condamnation. Il faut savoir juger du bien et du mal. Vous savez, il y a un certain nombre de chrétiens, je sais pas comment dire, de chrétiens dévertébrés, vous voyez, qui ne sont pas solides, qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas juger, il faut surtout pas juger. » Mais si, il faut juger, que ton oui soit oui et ton non soit non, nous dit l'Évangile, mais jamais condamné. Juger, bien sûr que oui, il faut le faire. Ah, mais pour juger, il faut avoir du courage. Pour juger, il faut réfléchir. Alors voilà, alors remarquez bien comme les, quand même, les bons cathos sont pourris. Parce qu'ils condamnent bien volontiers. Ah, bah ça oui, bien sûr. Ah, mais juger, non, 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 il n'est pas question de dire clairement les choses. Et donc, il ne faut pas condamner. C'est ça, vous voyez, l'histoire de la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera. Voilà, c'est-à-dire, oui, on sera jugé, mais pas condamné. Ne nous condamne pas comme nous-mêmes, nous ne condamnons pas. Voilà, donc, vous voyez, c'est ce que juger, c'est la vérité. Juger, c'est l'humanité. Il faut savoir trancher le bien et le mal. Il faut savoir lire, comprendre, déchiffrer ce qui est bien, puis ce qui est mal, en commençant par ce qui est bien d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est la première version light que je vous propose. La seconde, elle est en Luc. Remets-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Débiteurs, et c'est donc à ceux à qui nous devons. La générosité crée en nous une sorte d'habitus. Il s'agit de remettre à ceux qui nous doivent, c'est-à-dire donner gratuitement. C'est très étonnant. Et donc remets-nous nos péchés à la mesure où nous-mêmes, nous sommes généreux. Voilà. La générosité crée en nous une sorte d'aptitude, de caractéristique, d'aptitude à la miséricorde. Voilà, ça, c'est les deux versions light que je vous propose par rapport à la phrase décidément trop dure. Si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus pardonnera pas. Maintenant, je vous deux images, hein, et on finira ce point par ces deux images. La première, c'est la célébration du Yom Kippour chez les Juifs, qui est, si vous voulez, le jour du grand pardon, Yom Kippour, c'est-à-dire avec une obligation de lâcher les dettes, d'oublier, de pardonner aux autres. Et de fait, les gens se demandent pardon, remettent leurs dettes, etc. Enfin, c'est très. Ou le faisaient. Je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui. Hein. Parce que maintenant, il y a les écritures en banque, donc ce n'est pas si facile d'effacer les ardoises des gens. Mais à l'époque, c'était ça, le Yom Kippour. Hein. C'est vraiment impressionnant. Donc ça arrive une fois par an. Et puis, il y a également un rituel une fois tous les 7 ans pour les dettes un peu lourdes. Et puis, la deuxième image, c'est le pardon breton. Le pardon breton, c'est une espèce de pèlerinage à pied, centré en effet sur le pardon. C'est-à-dire, il s'agit de renouveler la foi, de renouveler la confiance, de renouveler un juste rapport à Dieu et aux autres. Il ne s'agit pas de se traîner dans la boue en disant qu'est-ce que je suis misérable, merdeux, pécheur. Non, non, il s'agit au contraire de se remettre debout, de se remettre en marche. Voilà, donc le pardon breton, ouais, c'est une fort bonne image de cette prière de demande du Notre Père, pardonne-nous, puisque nous sommes nous-mêmes généreux. Et enfin, nous allons voir, bon, la dernière, hein, ne nous laisse pas entrer, c'est pas la dernière, l'avant-dernière, ne nous laisse pas entrer en tentation. Le changement récent de traduction est assez bien vu. Il faut bien le dire. On en avait assez de l'ancienne traduction. Il faut savoir que le débat, lui, sur la traduction, n'est pas récent. Hein. Déjà, Origène est mort en 253, protestait contre l'idée que Dieu puisse nous éprouver, ce qui veut donc dire que c'était déjà dans les têtes et dans les traductions. Avant lui, Saint Jacques dit, au chapitre 1, versets 12 à 14, il dit ceci, que personne ne dise Mon épreuve vient de Dieu. Voilà ce que Origène a traduit en disant que nul n'ose dire c'est Dieu qui m'éprouve. Donc que personne ne dise mon épreuve vient de Dieu. En effet, Dieu ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de Dieu hein, pour être pour convoiter. On aurait dû en rester à la traduction de 1964, ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'était pas mauvais. Or, il y a dans la tradition, je vous explique là pourquoi on en est arrivé à ne nous soumets pas à la tentation. Il y a donc dans la traduction biblique et dans l'héritage juif, l'idée de l'épreuve. Non pas de la tentation, car tentation implique le péché, convoitise, ou au moins un mal moral, éthique. Mais l'épreuve, oui, elle fait partie de la tradition de nos existences spirituelles. Dieu éprouve le cœur de l'homme, il le sonde, c'est une tradition biblique. Mais nous ne sommes pas forcément éprouvés par le mal. Et c'est pas l'épreuve, c'est tout simplement la vie. La vie éprouve, elle fait vrai, elle vérifie. Par exemple, passer un examen, gravir un échelon hein, professionnel, prendre de nouvelles responsabilités dans les engagements, ou déménager, ce sont des épreuves. Ce ne sont pas forcément des maux, voyez, un mal des maux. Ce n'est pas forcément un mal, voyez, mais ce sont toujours des épreuves. Et l'épreuve fait partie de notre existence. Alors il y a quelques épreuves qui sont véritablement, qui nous font du mal. Perdre un enfant, traverser la maladie, évidemment. Mais l'épreuve est du point de vue existentiel, légitime et évidemment présent dans nos vies. Le mal, lui, est beaucoup moins légitime. Hein. Les bombardements en Syrie des églises chrétiennes sont évidemment un mal. Et c'est une épreuve. L'épreuve est parfaitement, on ne peut pas dire légitime, mais existentielle. La guerre a toujours sévi dans notre humaine et triste condition, et c'est un mal, voilà, qui lui n'est pas légitime. Et donc, ne nous laisse pas succomber à l'épreuve, eût été pas mauvais. Mais on a eu, ne nous soumets pas à la tentation. Et comme si Dieu pouvait avoir un rôle actif dans le mal. Moi, j'ai toujours connu, jusqu'à récemment, cette traduction du Notre Père, et j'ai toujours protesté, et j'ai toujours entendu autour de moi les chrétiens s'offusquer, s'étonner, en tout cas être dérangés par cette idée. Ils avaient raison, encore une fois, je vous le dis, depuis Origène, 3e siècle, on proteste contre cette traduction. Et si elle a fini par s'imposer, c'est tout simplement à cause de cette tradition biblique de l'épreuve. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et bien mieux que de supposer que Dieu puisse nous soumettre à la tentation. Il ne nous soumet pas à la tentation. Éventuellement, il nous laisse dans l'épreuve, il éprouve notre foi, mais certainement pas, il ne nous conduit pas en tentation. S'il a un rôle, il est défensif. Souvent, on a dit « Ah, mais Dieu ne nous tente pas, mais il laisse faire ». Oui, c'est en effet très inspiré du psaume 80, qui est un psaume extraordinaire, que je vous lis, au verset 12. Il est dit ceci « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. » Voilà, voilà comment Dieu laisse. Tu veux y aller? Je t'ai dit qu'il fallait pas y aller. Tu veux y aller? Vas-y. Mais le Notre Père va plus loin. Ne laisse pas faire, ne nous laisse pas dans la tentation. Dans la tentation qui de toute manière viendra, dans l'épreuve qui de toute manière viendra, ne nous laisse pas. Non seulement Dieu ne veut pas nous tenter, mais nous lui demandons de ne pas laisser faire, de nous aider à ne pas y aller de nous-mêmes dans la tentation. Voilà, donc c'est fort important de bien réfléchir à ça. Hein. Alors, la prière, ce serait garde-nous dans la tentation. Voilà ce que c'est que de donner une part active à Dieu. Si Dieu nous aide dans les épreuves de la vie, c'est là, il nous garde dans la tentation. Ce n'est pas lui qui provoque la tentation. Hein. Nous y sommes, mais il nous protège. Nous sommes dans la mêlée, nous sommes dans la baston, nous sommes dans la vie, et il nous aide. Ce n'est pas lui qui nous plonge dans le mal pour voir comment on va réagir. Lui, il met le panneau déviation, attention, route barrée, au bon moment. Hein, c'est, si on veut y aller, bah vas-y. Mais lui, il a tout fait pour qu'on n'y aille pas. Hein. Il a donné des signaux, notre conscience s'est éveillée, des amis nous ont avertis, et nous le savons bien par nous-mêmes, mais on y va. Voilà. Donc ne nous laisse pas aller. Ne nous laisse pas y aller. Et en effet, c'est son rôle positif hein, dans la tentation. C'est certainement pas lui qui tend des pièges, bien sûr. On peut même affirmer que s'il ne nous envoie pas d'épreuves, ben nous sommes, il faut redire, hein, nous sommes naturellement éprouvés. Et c'est en effet, peut-être bien dans l'épreuve, que nous nous révélons. Donc il peut y avoir des épreuves, en fin de compte, positives. Mais attention, c'est pas parce que en fin de compte, elles sont positives que c'est Dieu qui les a suscitées. Ce que Dieu a suscité, c'est dans l'épreuve, les dons du Saint-Esprit, la sagesse, la prudence, la force, pour que nous en sortions. Voilà ce qu'il peut faire d'une manière active. Mais même auparavant, nous lui demandons dans la prière qu'il ne nous laisse pas y entrer. Sauf que les épreuves, elles font partie de notre vie. C'est notre humaine condition. Il y en a, il y en aura. Mais vous voyez bien la nuance. Hein. Il y a des tentations dans lesquelles nous rentrons bien volontiers. Bon, voilà, c'est... Le latin du Concile de Trente, hein, en 1563, proposait « Nenos inducas in tentationem », qu'on a traduit « Ne nous conduit pas en tentation ».« Ne nous conduit pas en tentation ». Ce qui porte exactement le même défaut. Hein, les traditionnalistes qui nous disent « Ah, c'était bien mieux quand c'était en latin », mais non, on a exactement le même problème. Hein. Dieu peut-il nous conduire vers la tentation ? Bien sûr que non. Carmignac, que je vous montrais tout à l'heure, le livre, a proposé « Garde-nous », excellente traduction, « Garde-nous », donc vous voyez, un rôle actif et positif hein, de garde, voilà ce que Dieu fait, « Garde-nous de consentir à la tentation », parce que des tentations, il y en aura, mais on y consent. Et là, c'est une très bonne traduction, parce que ça distingue clairement épreuve et tentation. La tentation, on y consent. L'épreuve, elle est là, elle est là. Voilà. Donc, il faut y aller. Et vous en sortez plus ou moins bien. Mais épreuve n'est pas tentation, encore une fois. Voilà. Donc, garde-nous de consentir à la tentation. Ce qui touche bien davantage, non à l'épreuve, qui, encore une fois, est complètement naturelle, mais au péché, à la faute morale, à notre responsabilité. Là aussi, dans notre monde, la tentation est constante, mais c'est y consentir qui est un piège. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis ce bel ange gardien, vous voyez, avec une épée apaisante, si j'ose dire, à la main. Hein. C'est-à-dire, il nous garde. Voilà. Donc, consentir à la tentation, c'est évidemment un piège. Hein, parce qu'une fois consenti, bah, il est bien difficile de se dépêtrer. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est un peu plus à la fois facile et difficile à comprendre. Quand le mal est éprouvé, dans le monde entier, on en appelle à Dieu. Le mal est tellement insaisissable qu'il nous faut une raison insaisissable aussi. Dieu est-il la raison du mal ? Évidemment non. Mais Dieu, ce serait en quelque sorte le contrepoids. Ouais, le contrepoids de ce côté insaisissable, abyssal, absolu du mal. Si vous voulez, contre un absolu, ce qui nous semble être un absolu et un incompréhensible, nous avons besoin d'un autre absolu et d'un autre incompréhensible, Dieu. Dans le monde entier, assez spontanément, vous voyez, dans face aux misères, aux détresses et à l'injustice, on en appelle à Dieu. En effet, c'est quelque chose, nous ne comprenons rien, nous sommes devant quelque chose qui est insaisissable, et donc c'est l'insaisissable par excellence, Dieu. Voilà. Il est bon, quand nous prononçons ces mots, délivre-nous du mal, de nous rappeler que si nous-mêmes, nous ne sommes pas noyés dans le mal, vous voyez, c'est quand même rare, hein. Eh bien voilà une manière de dire, de prier quand même, délivre-nous du mal. Si nous, nous ne sommes pas noyés dans le mal, empêtrés dans le mal, nous ne sommes pas déportés, nous ne connaissons pas la famine, nous ne sommes pas écrasés par une tyrannie, beaucoup le sont dans le monde, alors cette dernière prière peut rappeler que c'est au pluriel que nous la disons. Nous prions pour tous. C'est le corps tout entier qui souffre, et non pas moi seul, moi si peu. Mais je peux prier, délivre-nous du mal, pour le corps tout entier. Donc voilà, vous voyez, nous en avons fini avec cette explication du Notre Père, enfin on n'en a jamais fini, en tout cas de méditer dessus, et certainement pas de le prier, et c'est en le priant qu'on le comprend, mais c'est également en le comprenant qu'on le prie mieux. Donc voilà le petit travail que nous avons fait. Nous passons maintenant, pour finir, septième point, je voudrais vous présenter une énigme en Cappadoce qui a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à tout un tas de chercheurs. Et c'est Carmignac, le fameux exégète qui a travaillé sur le Notre Père, qui a fini par trouver la solution. Et je vous présente cette énigme, elle est très intéressante, vous allez voir, passionnante. Et nous allons donc, pour ce faire, en Cappadoce. Ici, nous sommes à bord d'une montgolfière et nous survolons la région de Guérémé. Et il va falloir que nous allions dans la région d'Illara, à quelques kilomètres de là, dans une faille, une vallée très profonde, très étroite, presque un canyon, creusé dans le tuf volcanique, et donc un torrent impétueux a très rapidement creusé une vallée profonde. Dans les flancs des falaises à gauche et à droite, des moines se sont installés ou ont creusé des églises. C'est l'une d'entre elles que nous allons voir. Vous voyez qu'elle est très effondrée parce que l'érosion continue son travail. Cette église qui date du 7e siècle quand même, hein, 7e, 8e siècle, c'est quand même impressionnant, eh bien les voûtes sont peintes. Ah, vous en voyez, évidemment, vous avez beaucoup de mal à voir les choses, mais vous allez voir, je vais vous les décrire, et petit à petit, votre œil va voir ce que la voix décrit. Vous avez une croix, hein, qui est à moitié effondrée, une croix qui marquait le zénith de la voûte, et à gauche et à droite, vous avez trois registres, de part et d'autre, c'est-à-dire côté nord, côté sud. Et il y a un cycle de la nativité, que vous voyez ici, plus ou moins, hein. Alors, je vais vous montrer quelques plans plus visibles, mais en bas, vous voyez déjà la visite des mages. Voilà l'Annonciation. La voyez-vous? On voit très bien la main de l'ange, et on voit dressée vers Marie. On voit Marie qui est à gauche. Ensuite, photo suivante, vous avez sur le registre d'en bas la procession des rois, des mages, qui ne sont pas des rois, qui viennent vénérer l'enfant né avec Joseph, que vous voyez debout derrière la Vierge Marie. Ensuite, voici le relevé qu'a pu faire le père Gerfagnon, qui a découvert, qui a inventé ces sites au XIXe siècle. Et elles étaient encore à peu près déchiffrables. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup dégradé à cause du vandalisme des musulmans qui sont venus habiter le pays et qui ont caillassé les visages, hein, parce que c'est interdit dans l'islam de représenter des images d'hommes, de vivants. Et donc, quelques musulmans un peu siphonnés ont caillassé tout ça, ne se rendant pas compte, bien sûr, de la valeur de toutes ces choses. Photo suivante, voici la nativité. Un gros plan sur l'enfant Jésus, vous voyez, on l'est tout emmailloté. Un gros plan sur l'âne, qui est tout près de Jésus, emmailloté. Et voici la photo qui pose l'énigme que je vous propose. Il s'agit des bergers. Dans l'iconographie, donc vous voyez, très ancienne, 7e, 8e et même avant, les bergers avaient des noms, figurez-vous. Ici, il y a un nom qui est écrit juste au-dessus de la tête du berger. Vous voyez, on a l'impression qu'il se tient la tête, enfin qu'il porte sa main sur sa tête. Et juste au-dessus, vous avez son nom, Sator. Et même celui d'à côté, il s'appelle Arepo. Et nous l'avons sur plusieurs fresques de la même époque. Les cinq bergers, ils sont cinq, sont nommés. Voici le relevé de Gerfagnon, où là on le déchiffre très clairement. Vous voyez, vous repérez les bergers. Vous voyez, c'est la partie effondrée, hein, juste après le bain de l'enfant Jésus. Et donc, ces cinq noms, les voici. Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas. C'est très curieux. En latin, ça veut vaguement dire quelque chose. Le semeur mène avec soin les roues. Bon. Mais c'est écrit en grec. Sur la fresque, ici, c'est du grec, donc la traduction latine n'est pas très utile. Voici un graffiti qu'on a retrouvé bien avant, un graffiti à Pompéi, où on a les mêmes noms. Et Rotas, Opera, Tenet, Arepo, Sator. Et là, ils sont disposés sous cette forme-là, qui nous donne un indice. D'autant plus que on a retrouvé à Rome les mêmes noms, cette fois-ci écrits dans un carré parfait. Et là, vous commencez à comprendre. C'est donc ce qu'on appelle un carré magique, c'est-à-dire, c'est un carré parfait, tout peut se lire dans un sens ou dans un autre. Sator donne Rotas, Arepo donne Opera, Tenet donne Tenet. Tenet est parfaitement réversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Carmignac, donc, s'est mis à l'enquête et a trouvé plusieurs indices, plusieurs textes, et a vérifié plusieurs fois la véracité de sa thèse. Voici Tenet et Tenet qui forment un carré. Et donc, il y aurait avec les autres lettres une énigme. Que voici? Vous écrivez une première fois Pater Noster, vous empruntez les lettres. Pater Noster, vous voyez, je les ai barrées. Voilà. Vous écrivez une deuxième fois Pater Noster. Vous retirez les lettres, je les ai barrées, en vert. Il reste Pater Noster, Pater Noster, Alpha et Oméga. C'est donc un Notre Père crypté. C'était, si vous voulez, au temps des persécutions, quelque chose qui servait, il y avait le ictus, hein, vous savez, le fameux ictus que tout le monde connaît, qui servait pour les chrétiens à se repérer, à s'identifier. Et puis, il y avait également ces noms. Et quand, sur une maison, il y avait marqué Sator, bien, ça veut dire que le monsieur, ce n'était pas son nom, ça veut dire que la famille était chrétienne. Sur notre maison, vous aviez marqué Rotas, ou bien Arepo. Et voilà, c'était une manière de se repérer. Oui, bon, voilà, je voulais finir par cette petite énigme. Sans mon aide, évidemment, et sans l'aide de Carmignac, nous n'aurions jamais trouvé tout ça. Mais c'est quand même très intéressant, vous voyez, de repérer à quel point le Notre Père a servi au salut, y compris dans les périodes de persécution. Voilà, je finis avec ce très beau visage, hein, de cette fresque du 7e siècle, hein, des bergers. Eh bien, je vous souhaite pour la suite de bonnes études et continuez, persévérez avec le CIF. Hein, là, vous allez avoir un cours d'anthropologie absolument passionnant, j'espère. Et l'an prochain, ecclésiologie, sacrement et morale. Voilà, je vous souhaite donc de bonnes études et j'espère qu'on va bientôt en finir avec ce virus. Il faut que nous réussissions à propager la foi chrétienne. C'est quand même bien mieux. Allez, au revoir, à plus tard.